Bien, mesdames et messieurs, nous allons commencer. Et tout d'abord par la nomination d'un ou d'une secrétaire de séance, et je propose pour ce faire Madame Patricia Roche. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je vous fais part des procurations que j'ai reçues. Monsieur Vincent Théocchi a donné procuration à Madame Elvire Théocchi. Et Madame Sonia Collot m'a donné procuration. Et Madame Chomel a donné procuration à Madame Thibault. Je vous fais part de remerciements. Alors, nous avons l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Vaucluse qui nous remercie pour l'attribution d'une subvention pour l'année 2015 et qui se fait un devoir de nous exprimer au nom de tous les sapeurs-pompiers de Vaucluse les remerciements les plus chaleureux. Je passe à l'adoption du compte-rendu de la dernière séance que vous avez tous examiné ou écouté. Y a-t-il des remarques ? Alors, s'il n'y a pas de remarques, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Alors, suite à notre dernière séance qui a eu lieu, si je ne m'abuse, le 30 mars dernier, je tiens à apporter un certain nombre de précisions, voire je tiens à faire un certain nombre de mises au point. Tout d'abord, Madame Thibault avait affirmé que nous avions effectué des travaux au lotissement Le Jonquier sur une propriété privée. Eh bien, il n'en est rien. En réalité, la voie qui mène au lotissement Le Jonquier est bel et bien incluse dans le domaine public communal, et ce, d'ailleurs, depuis une délibération du Conseil municipal en date du 8 avril 2008, sous votre présidence, Madame Thibault. Donc voilà, la précision est apportée. Nous n'avons pas fait des travaux pour 1 800 euros sur une propriété privée. Et autre mise au point, là c'est pour répondre à la tentative de polémique qu'a essayé de lancer notre collègue Arcuzet sur les ouvrages pour enfants édités par les éditions du Triomphe, et je tiens à vous les faire passer afin que vous jugiez par vous-même de leur caractère nocif pour les valeurs de la démocratie et s'il convient de les brûler, le cas échéant, en place publique. Alors voilà les ouvrages qui ont été distribués aux enfants des écoles. Mes petits amis, Titounet et Titounette, trois jolies histoires autour de l'hiver. Titounet et Titounette, vacances de Noël. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture et je fais passer dans les rangs. Et je vous en prie, monsieur Arcuzet.
Donc, je vous demande de bien réécouter ce que nous avons affirmé. Ce n'est pas la critique sur les livres en eux-mêmes, c'est l'affiliation de cette maison d'édition à l'extrême droite et au catholicisme intégriste, ce qui a été soulevé par les parents d'élèves lors du conseil d'école.
Alors, écoutez, monsieur Arcuzet, on ne va pas recommencer cette polémique qui n'a que trop duré, qui est complètement vaine, qui est complètement déplacée. Franchement déplacé, il suffit de lire les ouvrages, que ce soit, quelle que soit l'étiquette politique de telle ou telle maison d'édition, étiquette politique supposée, parce que vos sources, c'est Wikipédia. Vos sources, c'est Wikipédia, c'est un site internet que tout le monde connaît, mais qui c'est un site participatif. Wikipédia annonce même d'ailleurs en préambule qu'elle ne réponde en rien de l'exactitude de la vérité scientifique des informations qui sont apportées par les contributeurs. Donc franchement, encore une fois, c'est une polémique vraiment stérile. On n'a pas besoin de ça à camarer, surtout quand il s'agit des enfants. Vous pourrez lire donc les ouvrages. Je vous souhaite une bonne lecture. Et j'ajoute, monsieur Arcuzet, que pour un élu vigilant, tel que vous vous êtes présenté dès le départ, vous avez été passablement en sommeil, puisque ces ouvrages ont été distribués au mois de décembre 2014 et vous avez lancé la polémique à la veille du mois d'avril. Alors, monsieur Arcuzet, permettez-moi de vous dire que vous êtes vigilant, mais une marmotte. Vous êtes une marmotte vigilante. Vous avez dormi tout l'hiver. Vous n'avez pas bougé de tout l'hiver.
On a vu vos talents hein, sur le droit de réponse, d'ailleurs, qui est tout juste. Je vous rappelle que c'était le vote du budget et qu'il était mentionné encore des livres. Donc, il était tout à fait pertinent de reposer la question.
Comme vous l'avez dit vous-même, soi-disant, des parents d'élèves ont protesté. Il y en a eu très, très peu, tout de suite. Voilà. Vous étiez au courant dès le départ de ce que peut-être il y avait quelque chose à dire sur cet ouvrage. Et en plus, c'était même pas les éditions du Triomphe qui étaient visées, c'était le fait qu'il y avait une crèche qui était représentée. Oh, quel grand scandale au moment de Noël, distribuer un dessin avec une crèche. Franchement, bon. Bref, voilà. Et en tout cas, il n'y a pas eu. Non, il n'y a pas eu de. Il y a eu simplement une présentation de l'ouvrage en conseil des écoles, et puis c'est tout. Alors, venons-en à l'ordre du jour. Rapport numéro 1, vente d'un bien immobilier communal. Dans le cadre de la gestion de son patrimoine immobilier, la commune souhaite vendre l'appartement 6-1 cours du Midi, faisant partie du domaine privé de la commune, sur la parcelle cadastrée section AW numéro 227. Ce bien de 170 mètres carrés au total comprend un rez-de-chaussée avec couloir d'accès, une petite pièce ainsi qu'une cour intérieure. Le R+1 comprend un salon, une cuisine, trois chambres sanitaires et une terrasse. Le R+2 comprend deux chambres. L'appartement faisant partie d'un immeuble dont une partie du rez-de-chaussée, le Club Bel Automne, reste propriété de la commune, la création d'une copropriété sera à prévoir. Le prix de vente envisagé sera à minima celui estimé par le service des domaines. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 2411-1 et suivant, vu l'avis de la Direction départementale des finances publiques de Vaucluse, service des domaines en date du 2 avril 2015, il est demandé au conseil municipal d'accepter la vente de l'appartement 6-1 cours du Midi tel que décrit ci-dessus, d'autoriser monsieur le maire à effectuer les négociations préalables, à signer les actes de vente et tout document afférent à ce dossier. Madame Thibault.
Bien, je voulais savoir si cette vente avait un rapport avec la DIA, conjointement avec la vente de la propriété du Peyre qui se trouve 7 cours du Midi. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que c'est une.
Aucun lien.
Un lien dans le sens de pour l'acquéreur, c'est-à-dire acquisition à la fois donc de la propriété du Peyre et du bâtiment
pas du tout.
Appartenant à la commune pour faire une opération immobilière, une opération d'ensemble.
Pas du tout. En fait, nous en sommes au niveau de la procédure concernant ce local, ce logement. Nous avons donc consulté les domaines. Vous avez d'ailleurs l'estimation du service du domaine qui est jointe au dossier. Et à partir de ce moment-là, il faut que le conseil municipal autorise la vente, qui peut d'ailleurs ne pas avoir lieu in fine, et qui cette procédure comprend un appel aux gens intéressés par l'intermédiaire d'une agence ou de plusieurs agences immobilières. Donc pour l'instant, il n'y a pas du tout.
Donc aujourd'hui, il n'y a pas.
Personne ne s'est positionné là-dessus à cette heure.
L'objectif, c'est de. Vous voulez vendre ce bien.
Tout à fait.
Et y a pas, vous n'avez pas envisagé de projet par rapport à ce bien immobilier communal, le rénover, le restaurer, voilà, dans le cadre de créer, afin de créer des logements. Enfin, je sais pas. Hein, oui. Voilà. Après,
C'est un appartement que vous connaissez, j'espère, qui est très vaste, qui est très difficile en fait à louer en l'état, parce qu'il d'abord par sa taille. Ensuite, il y a beaucoup de travaux à y faire. Et donc, nous n'avons pas spécialement les moyens de consacrer tout ce budget à ce genre de travaux. Et donc, la solution la plus préférable, c'est de vendre en l'état le logement.
Il aurait été aussi possible de l'inscrire dans le cadre du programme d'aménagement solidaire, comme ça s'est passé dans la Grand Rue, dans le cadre de réhabilitation de logement, pas de le réhabiliter pour 140 mètres carrés habitables, mais prévoir deux logements. Enfin voilà, ça mais c'est après c'est
pour le type de logement. Comprends. Mais c'est pas ça, Madame Thibault. Voilà. Pour le type, parce que vous n'avez rien fait pendant 6 ans concernant ce logement. Donc pour ce type, pour le type de logement,
il était loué. On était quand même sur un programme.
Pour le type de logement, programme d'aménagement solidaire, ce sont des logements beaucoup plus petits. Là, c'est un logement très grand qui aurait nécessité pour le louer aux personnes visées par ce type de dispositif social, serait nécessité de le scinder en deux. Et donc, cela aurait occasionné des travaux importants pour pouvoir faire deux logements dans ce local.
Oui, mais à terme, des revenus pour la commune en termes de rentrée de loyer.
Mais voilà, nous allons avoir les mêmes revenus en termes de loyer, voilà, mais pas dans le cadre du PASS, parce qu'il s'agit d'un logement trop grand.
Donc je dirais que notre position, nous allons voter contre parce que nous pensons quand même qu'il est regrettable de vendre du patrimoine de la commune comme ça. Voilà, c'est notre position.
Mais c'est votre position.
Et c'est respectable.
Et moi je vous dis que nous avons dans le patrimoine immobilier de la commune ce logement qui était complètement laissé à l'abandon jusqu'alors et qui se dégrade assez rapidement, qui nécessite donc beaucoup de travaux. Vous n'en faisiez rien. Nous allons en faire quelque chose.
Voilà. Vous le vendez?
Nous allons le vendre, effectivement, parce que c'est la solution qui nous paraît la moins coûteuse. Ce qui ne nous empêche pas de faire des logements pour les personnes défavorisées par ailleurs. Oui.
S'il vous plaît, quelle sera la quotité donc de millième entre la mairie et l'appartement qui va être vendu? Pas la quotité.
Voilà, on n'a pas encore défini ce règlement de copropriété qui sera à intervenir et qui sera une condition sine qua non à la vente, en ce sens qu'il faudra absolument que l'acquéreur respecte le fait que le local du rez-de-chaussée est bien un local communal qui pourra être un jour d'ailleurs peut-être un local commercial ou artisanal. Donc il va falloir organiser la coexistence entre les deux types de locaux.
Oui, parce que je crois que la toiture est tout à refaire. Donc à ce moment-là, c'est vrai qu'on aurait eu des travaux relativement importants à envisager. Il y a combien de compteurs électriques dans cette maison?
Deux. Il y a deux compteurs, oui.
Deux compteurs. Si on avait fait deux logements en plus, hein, il aurait fallu préalablement à la copropriété refaire l'intégralité de l'électricité, ce qui aurait engendré des frais énormes avec la proportion de toiture à faire. Donc à ce moment-là, l'investissement travaux, rentabilité, je crois, n'aurait pas été aussi bon que ça. Surtout, il aurait fallu vraiment avoir du long terme. Voilà, donc pour moi, je pense que c'est une bonne chose en cette matière.
Merci. Monsieur Payalonga.
Oui, moi, la seule question que j'ai, c'est concernant cette recette qui va être va rentrer dans les comptes de la commune. Est-ce que ça va être de l'argent qui va servir à réinvestir ou ça va venir dans le budget de fonctionnement?
Oui, ce sera une recette d'investissement. Mais encore une fois, je rappelle une chose, c'est que nous sommes dans un stade de la procédure où la vente n'est pas obligatoire. C'est simplement une possibilité qui est accordée par le conseil municipal. En fonction des offres qui nous seront faites, nous conclurons, nous irons au bout ou pas. Et effectivement, la recette, si recette il y a, sera affectée à un investissement de la commune. Ça, c'est clair. Bien. Je mets aux voix. Qui est contre? Donc, opposition socialiste. Qui s'abstient? Adopté. Je vous en remercie. Alors, dossier numéro 2. Tarif de recouvrement des frais de capture des animaux errants. Rapporteur Lionel Muret.
En application de la loi 99.5 du 6 janvier 1999, la ville de Camaret confie à la SARL SPCAL la mission de service public de capture et de prise en charge des animaux errants sur le domaine public. Les animaux, chiens et chats, saisis sur le domaine public, seront conduits par la dite société à la fourrière auprès de la SPA du Petit Pigeolet, à Lille-sur-la-Sorgue. S'ils sont blessés, ils seront conduits chez un vétérinaire par les sapeurs-pompiers. Leurs propriétaires, lorsqu'ils sont identifiés, doivent s'acquitter auprès de la collectivité des frais de prise en charge et de transport de l'animal, ainsi que des éventuels frais vétérinaires engagés par elles. Il est proposé de fixer le tarif de la prise en charge et de transport à 90 euros par intervention à la SARL SPCAL. Il est proposé de mettre à la charge du propriétaire identifié les frais de prise en charge ainsi que les éventuels frais de vétérinaire engagés par la commune. Ces sommes seront recouvertes par émission d'un titre exécutoire de paiement. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le tarif de 90 euros par intervention de la SARL SPCAL et de la mettre à la charge du propriétaire identifié afin que les éventuels frais de vétérinaire engagés par la commune, d'approuver la perception par émission de titre exécutoire de paiement. Les recettes correspondantes sont inscrites à l'article 758 du budget principal.
Donc pas de questions, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Rapport numéro 3, mise en place d'un marché communal des producteurs, rapporteur Fanny Biscara.
La commune de Camaret-sur-Aigue souhaite modifier l'organisation du marché des producteurs organisé jusqu'en 2014 en convention avec la Chambre d'agriculture de Vaucluse. Les services municipaux étant en mesure d'organiser cet événement sans recours à un organisme extérieur et pour un moindre coût, il est proposé de prendre en charge l'ensemble de l'organisation du marché communal des producteurs. Le marché communal des producteurs se tiendra tous les vendredis de juin, juillet et août de 17h à 19h30 sur le parking extérieur du motobol. Un règlement intérieur sera établi et remis pour approbation à chaque participant. Les marchés constituent une occupation privative du domaine public donnant lieu au paiement d'une redevance perçue sous la forme de droits de place. Les droits de place sont dus par la personne qui occupe le domaine public. Les tarifs des droits de place sont fixés par le conseil municipal et publiés par arrêté du maire. Pour le marché des producteurs, il est proposé de fixer la redevance d'occupation du domaine public à hauteur à 1,50 € le mètre linéaire par marchand et par jour. Le décret numéro 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique fixe que seuls les comptables publics sont habilités à entrer en possession d'espèces ou de chèques pour le règlement des produits locaux. Toutefois, la création d'une régie peut permettre à des agents communaux placés sous l'autorité du maire et sous le contrôle du comptable public d'encaisser des recettes limitativement énumérées dans l'acte constitutif de ladite régie. Dans ce cadre, les droits de place sont perçus par les fonctionnaires municipaux, receveurs placiers, chargés de l'organisation des marchés et de la répartition des emplacements. L'acquittement des droits de place est constaté par la remise à chaque commerçant d'une quittance détaillée, provenant par exemple d'un carnet à souche. En conséquence, il est proposé au conseil municipal, en décidant de la modification du marché des producteurs, d'autoriser la régie de recettes pour les droits de place du marché hebdomadaire à percevoir les recettes du marché des producteurs selon les tarifs mentionnés ci-dessus. Vu la délibération 2014-75 du 18 septembre 2014, instaurant une régie de recettes pour les droits de place, vu l'article L 2224-18 du Code général des collectivités territoriales, Vu le décret numéro 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18, vu le décret numéro 2008-227 du 5 mars 2008, abrogeant et remplaçant le décret numéro 66-850 du 15 novembre 1966, relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, il est demandé au Conseil municipal d'autoriser la modification concernant l'organisation du marché communal des producteurs, d'autoriser Monsieur le maire à définir par arrêté les modalités d'organisation du marché et le contenu du règlement intérieur y afférent, ainsi que de prendre toute mesure utile pour sa mise en place, d'approuver le tarif de la redevance d'occupation du domaine public à hauteur de 1,50 € le mètre linéaire par marchand et par jour, d'approuver la perception des recettes par la régie pour les droits de place. Les recettes correspondantes seront inscrites à l'article 7336 du budget principal.
Monsieur Arcuzé.
Oui, je voulais vous remercier, une fois n'est pas coutume. Je voulais vous remercier pour l'excellent support pédagogique que vous nous offrez pour expliquer ce qu'il ne faut pas faire. Et je pense au règlement intérieur et d'expliquer quelques règles pour rédiger un document de qualité. Premièrement, évitez de faire des copier-coller. Dans l'occurrence, vous n'êtes pas allé bien loin, c'est le règlement du marché de producteurs de Monteux. Deuxièmement, croiser les sources et vérifier la pertinence de ces sources, pour ne pas dire de sottises. Troisièmement, maîtriser le contenu et apporter une valeur ajoutée. Alors, sur la maîtrise du contenu, j'aimerais bien qu'on nous explique. Les fruits et les légumes doivent être exempts de toute trace de produits de développement et de surmaturité. Donc, que signifie cette phrase et comment comptez-vous contrôler les résidus ? Ensuite, et je crois que c'est peut-être le plus important, quand on n'a pas les compétences, le mieux c'est de se faire conseiller par des spécialistes. Donc il est forcé de constater que vous annoncez la mort du marché des producteurs pour plusieurs raisons. Un, le règlement intérieur ne prévoit pas la possibilité d'avoir des produits transformés dans les exploitations. C'est-à-dire qu'on n'aura plus possibilité d'avoir de fromage, d'huile d'olive, du vin, des confitures. Et si c'était le cas, il faut le préciser dans le règlement intérieur. Deuxièmement, il n'est pas prévu de nombre minimum de producteurs ni des moyens de les fidéliser, ce qui est très important pour la réussite d'un marché et ce qui était garanti par notre convention avec la Chambre d'agriculture et plus particulièrement avec Bienvenue à la ferme. Et donc on aura une gamme de produits insuffisante. Troisième raison, la période que vous proposez, juin, juillet et août, est absolument pas pertinente. Il faut savoir que le printemps est très intéressant et c'était le succès quand la période notamment des asperges et des fraises. Et le mois d'août est un mois qui ne fonctionne pas sur les marchés de producteurs du soir. Mais vous avez peut-être une recette miracle pour le faire fonctionner. Et certainement le plus grave, quelles sont vos possibilités de contrôler la provenance et la qualité des produits proposés avec vos propres services, sachant que là aussi, nous, on avait cette convention avec la Chambre d'agriculture qui garantissait ces règles. Donc, pour toutes ces raisons, je crois qu'on ne peut pas être favorable à cette délibération. Car je crois que ça va nuire à la qualité des productions qui seront proposées et à la viabilité de cette démarche.
Je peux répondre
Oui.
Un peu bien. Alors, en tant que productrice, je suis à même capable de voir ce qui est bon et pas bon sur les étalages. Donc, produits transformés, on n'a jamais dit que c'était pas possible. Il y avait une dame qui avait sa crèmerie l'année dernière, des produits délicieux, qui a répondu présente. Le vin, pareil. Et ensuite, au mois de juin, c'est vrai qu'il n'y a que des asperges et des fraises. Il n'y a pas grand-chose d'autre.
Des produits transformés.
Quels produits transformés vous citez ?
Du vin, du vin, du fromage de chèvre, du lait.
Disons qu'on a voulu, on a surtout voulu toucher le tourisme. Et au mois de juin, il y a encore l'école. Donc au mois d'août, il n'y a plus l'école. Les enfants sont en vacances.
Est-ce que vous avez suivi, il y a eu une évaluation qui a été faite l'année dernière, malheureusement vous n'avez pas participé, par la Chambre d'agriculture et Bienvenue à la Ferme, sur le succès et les freins qu'il y a sur ces marchés. Donc si vous aviez participé, vous savez qu'il y a des communes qui ne sont pas touristiques, et nous ne sommes pas une commune touristique.
Alors pourquoi on fait la marche du plan de Dieu ?
Mais à la marche du plan de Dieu, regardez les clientèles qu'il y a, c'est des clientèles de proximité, ce sont ce qu'on appelle des excursionnistes.
Non, il y a beaucoup de gens de Belgique et d'ailleurs.
Beaucoup de gens de Belgique.
D'ailleurs, de France.
Mais bon, on parle du marché, et ce qui est dommage, c'est que la Chambre d'agriculture vous a convié à la réunion de restitution pour faire des préconisations. Vous n'y êtes pas allé. Vous aviez un rendez-vous avec la Chambre d'agriculture que vous avez annulé. Et donc, voilà, nous, simplement ce qu'on dit, reconnaissez que vous avez fait une erreur et reprenez contact avec les gens.
Mais il n'y a aucune erreur, à annuler.
Je vais répondre sur le problème de la Chambre d'agriculture parce que, alors là, Maître Montagnier voulait prendre la parole. Prends le micro.
Je voulais simplement demander combien de fois la Chambre d'agriculture venait en juin, juillet et août pour contrôler les produits.
Zéro.
Voilà.
Zéro.
Et je pose la question au président André Bernard qui me répondra volontiers sûrement.
Voilà. Tout à fait. Non mais alors là.
Regardez les comptes rendus.
Monsieur Arcuzé. Monsieur Arcuzé, je trouve franchement, fort de café que vous me donniez des leçons de compétences en matière de marché de producteurs. À quoi ressemblait le marché de producteurs que vous avez monté avec la Chambre d'agriculture lorsque nous avons été élus, hein ? Je n'aurais pas la cruauté de rappeler que c'était un marché qui périclitait totalement. Ça ne marchait plus du tout. Ça ne marchait plus à tel point. Je vais citer qui ? Je vais citer Marlène Thibault. Marlène Thibault qui écrit au président de la Chambre d'agriculture de Vaucluse. Alors, Monsieur le Président, cette année 2013 a été pour les producteurs en général et pour notre marché en particulier une année très difficile. La quantité de marchandises n'était pas suffisante et certains producteurs n'ont pas honoré leur présence sur le marché. Vos services n'ont pas trouvé de producteurs en complément de gamme alors que cette continuité était prévue dans la convention qui nous lie. Au mois d'août, nous avons connu une présence moyenne de 2 producteurs. Vous voyez que le mois d'août, c'était... Et fin septembre, les producteurs ne sont plus du tout venus. Et c'est vous qui nous donnez des leçons de compétences. Mais alors là, les bras m'en tombent. Vous avez coulé ce marché, et maintenant vous venez nous dire qu'on s'y prend mal. Alors là, franchement, en plus vous nous faites un procès d'intention. Attendons de voir ce que cela va donner. Mais franchement, vous êtes très très mal placé. Madame Thibault.
Oui. Monsieur de Beauregard, 2013, je ne sais pas si vous en souvenez, effectivement, je tiens à vous dire, je ne vous ai pas rencontré très souvent sur ce marché de producteurs. 2013,
j'y suis allé à chaque fois. Et c'est là que j'ai vu que le marché périclitait d'année en année.
Vous avez participé à toutes les manifestations, oui, je sais. 2013 était une année particulière, monsieur de Beauregard, si vous vous intéressez un petit peu à l'agriculture, nous avons une agricultrice ici.
Je suis fils d'agriculteur.
Particulièrement difficile, où il n'y a pas eu de fraises, il n'y a pas eu d'asperges, il a fait très froid, une production qui était minime. Effectivement, j'étais en droit de d'écrire au président donc de la Chambre d'agriculture pour essayer de redynamiser, mais effectivement, avec un démarrage difficile, il était difficile après d'assurer des producteurs sur ce marché-là. Mais ce marché fonctionne quand, je dirais, le climat permet d'avoir une production en temps et en heure. Et c'est le but un peu du marché de producteurs. On vend des fruits et des légumes de saison, quand la saison le permet, et surtout quand il n'y a pas eu de gel juste avant les productions. Voilà, je crois qu'il faut quand même ramener les choses à leur juste valeur, ne pas faire de procès d'intention concernant la gestion de Madame Thibault. Ben,
c'est vous-même qui...
Je pense que nous avons fait quand même suffisamment de choses. Vous en profitez, c'est très bien et c'est tant mieux que ça continue. Mais il faut que ça continue dans des conditions, je dirais, qualifiées de marché de producteurs, avec une garantie pour les consommateurs d'avoir une production locale, d'avoir un contrôle digne de ce nom. Voilà, donc ça demande quand même une certaine expérience. Voilà. Après, nous étions en partenariat avec la Chambre d'agriculture. La Chambre d'agriculture est quand même un soutien pour les producteurs locaux. Voilà, donc je pense qu'on travaille tous ensemble pour le bien des producteurs et des consommateurs. Voilà ce que je voulais dire.
Eh bien, moi, j'ajoute que, contrairement à ce que vous dites, l'année 2013 n'était pas une exception. Le marché a commencé à péricliter bien avant et il a continué après à péricliter, en 2014. Là, on ne pouvait pas invoquer quelque accident climatique que ce soit.
Excusez-moi, mais vous n'avez pas répondu à la question, comme souvent. Qu'est-ce que vous entendez par traces de produits de développement et de surmaturité? Donc, quelles sont les productions visées? Quels sont les types de produits? Et comment vous allez analyser, contrôler les résidus?
Je passe la parole à la spécialiste, Madame Biscard, Mademoiselle Fanny Biscard.
Mais surmaturité, je ne vois pas ce que c'est.
On est d'accord.
Si c'est des produits moisis.
Non, mais voilà, mûres, c'est ça. Je pense que c'est une question de bon sens aussi.
Tout le monde est capable de pas les acheter déjà. Voilà. Et en fait, c'est exactement le même marché, sauf qu'il n'y a pas le petit logo Chambre d'agriculture. C'est exactement pareil.
Vous
l'avez créé, c'est une chose.
Avec l'ingénierie de gens compétents, ils sont bien mieux.
Écoutez, monsieur Arcuzet
était ouvert à tous les agriculteurs de Camargue.
Monsieur Arcuzé, on jugera l'arbre à ses fruits, si vous le voulez bien. Ne faites pas de procès d'intention avant même que cela ait commencé, s'il vous plaît. Et vice-versa, bien sûr. Mais je ne pense pas avoir été un opposant systématique pendant 6 ans, comme vous l'êtes, vous, aujourd'hui. Avec les résultats électoraux que l'on sait, en plus, pour couronner le tout. Ah ben, ça change certainement. Certainement. Mais je vous dirai si je vous donne la parole. Mais si je vous donne la parole, c'est parce que vous me l'aurez demandé.
Oui, je devais l'avoir.
Vous avez la parole.
D'abord, je pense que vous pouvez rigoler encore beaucoup, parce que comme il n'y a pas de commission, il faut bien que nous ayons des informations, un échange en conseil municipal. Ne me regardez pas comme ça. Nous n'avons pas de commission. Donc, effectivement, les questions, nous les posons en conseil municipal. Voilà,
non, vous n'avez pas posé des questions, vous avez dressé un véritable réquisitoire sur la démarche qui a été suivie avant même qu'elle n'ait commencé.
Mais pour le bien-être des consommateurs,
oui,
monsieur.
Ben ça, c'est ce que nous verrons.
J'espère.
Alors, cela dit, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, adopté à la majorité, je vous en remercie. Alors, dossier numéro 4, opération façade, rapporteur Christine Winkelmann.
Afin d'encourager la revalorisation du patrimoine local auprès de la population, la commune a lancé une opération façade depuis plusieurs années. Cette dernière consiste en l'octroi de subventions aux propriétaires d'immeubles pour les travaux de ravalement de leur façade, à condition que cette dernière soit située dans un périmètre défini. La municipalité souhaite relancer ce dispositif malgré l'abandon par le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur de son dispositif d'aide financière en la matière. Pour ce faire, il est proposé au Conseil municipal de définir les nouveaux périmètres de l'opération façade comme proposé sur le plan 6 juin et de fixer les taux de la subvention suivante. Les subventions suivantes. Secteur intramuraux, 50% du montant TTC des travaux réalisés sur facture avec un plafond de la dépense subventionnale de 7 650 euros comprenant l'enduit façade, les éléments techniques et de décor de façade. Modénature, menuiserie, zingerie, ferronnerie. Secteur extramuraux, 30% du montant TTC des travaux réalisés sur facture avec un plafond de la dépense subventionnale de 7 650 euros comprenant l'enduit façade, les éléments techniques et de décor de façade. Modénature, menuiserie, zingerie, ferronnerie. 5% de subventions supplémentaires peuvent être accordées pour les travaux de dissimulation d'équipements techniques anciens existants avant le début de l'opération façade. climatiseurs, grilles de ventilation, coffrets de volets roulants à destination commerciale. L'attribution de la subvention se fera selon les modalités prévues par le règlement de l'opération façade. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le nouveau périmètre de l'opération façade, d'accepter les nouveaux taux de subvention, d'autoriser Monsieur le maire à signer le règlement de l'opération façade ainsi que tout document nécessaire au bon déroulement de cette opération.
Y a-t-il des questions ? Pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 5, création d'un poste dans le cadre du dispositif des emplois d'avenir, rapporteur Antonio Muga.
Le maire expose aux membres de l'Assemblée le dispositif des emplois d'avenir récemment mis en place visant à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes sans emploi âgés de 16 à 25 ans, peu ou pas qualifiés ou résidant dans des zones prioritaires. Ce dispositif, qui concerne notamment les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit l'attribution d'une aide de l'État liée à l'engagement de la collectivité en matière d'accompagnement du jeune, compte tenu du poste, tutorat, formation. Les jeunes sont recrutés dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé qui bénéficie des exonérations de charges appliquées au contrat d'accompagnement dans l'emploi. La durée hebdomadaire afférente à l'emploi est, sauf dérogation particulière, de 35 heures par semaine. La durée du contrat est de 36 mois et la rémunération doit être au minimum égale au SMIC. Vu le budget de la commune, considérant la politique sociale de la commune, oui, la proposition de Monsieur le maire de créer un emploi d'avenir dans les conditions suivantes. Le profil, un poste d'animateur, pour service enfance-jeunesse, confère fiche de poste. Durée des contrats, 36 mois. Durée hebdomadaire de travail, 35 heures. Rémunération, SMIC horaire. Et de l'autoriser à intervenir à la signature de la convention avec la mission locale et des contrats de travail à durée déterminée avec la personne qui sera recrutée. Il est demandé au conseil municipal de créer un poste dans le cadre du dispositif emploi avenir dans les conditions suivantes. Profil, un poste d'animateur pour le service enfance-jeunesse, durée des contrats 36 mois, durée hebdomadaire de travail 35 heures. Rémunération, SMIC horaire. D'autoriser Monsieur le maire à mettre en œuvre l'ensemble des démarches nécessaires pour ce recrutement.
Une petite précision, s'il vous plaît. Donc, il y a actuellement 2 emplois jeunes au service enfance-jeunesse, 1 emploi jeune au service technique. Est-ce qu'il s'agit d'un troisième emploi jeune au service enfance-jeunesse ou le remplacement de l'un par l'autre ?
Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 6. Modification du tableau théorique des effectifs. Service petite enfance. Rapporteur, toujours Antonio Muga.
Vu l'article 3, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, vu la délibération du 30 mars 2015 établissant le tableau théorique des effectifs de la commune de Camaret-sur-Aigle, vu le budget de la commune, vu le décret 2013-491 du 10 juin 2013 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à des cadres d'emploi à caractère social de la catégorie B de la fonction publique territoriale, considérant que ledit décret a eu un impact sur le grade d'un agent affecté au sein de la crèche municipale et que le tableau théorique des effectifs n'a pas été modifié à ce moment-là, vu la nécessité de régulariser le tableau des effectifs afin que celui-ci concorde avec le déroulement de carrière de cet agent, oui, les propositions de Monsieur le maire, il est demandé au conseil municipal d'accepter la création du poste budgétaire suivant, un poste d'éducateur de jeunes enfants à temps complet pour le service petite enfance, crèche, d'accepter le nouveau tableau théorique des effectifs tel qu'annexé à la présente délibération.
Pas de questions ?
modification.
En fait, voilà, tout à fait.
Donc la modification, elle intervient suite à une délibération que vous avez prise en 2010 pour nommer un agent en qualité d'éducateur principal de jeunes enfants. Mais en 2013, vous avez eu une réforme de la catégorie B. Donc ce poste a été, a été supprimé. Donc simplement la repositionner sur la bonne grille. Tout simplement.
Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Alors au titre des questions diverses, vous avez eu l'état des déclarations d'intention d'aliénés pour le premier trimestre 2015, ainsi que l'état des décisions du maire au titre du premier trimestre 2015. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Alors, s'il y a d'autres questions diverses, nous sommes tout oui. Maître Montagnier,
On a parlé de réaménager les appartements. Qu'en est-il du chef-d'œuvre en péril de Mistral Habitat de la route d'Orange ?
J'apprécie l'ironie de l'expression à sa juste valeur.
Non, parce que je veux bien qu'on réhabilite.
Oui. Qu'en est-il de là ? Mais effectivement, c'est un problème dont nous avons hérité, qui ne dépend pas, malheureusement, de la commune, sauf au titre de la garantie d'emprunt, qui est énorme, puisqu'elle correspond à un quart du budget communal. Et malgré toutes nos demandes et malgré toutes nos sollicitations, nous n'avons aucune nouvelle, en tout cas aucune bonne nouvelle, de la part de Mistral Habitat, qui d'ailleurs parfois oublie de prévenir qu'elle ne peut pas honorer le rendez-vous, oublie de prévenir qu'elle ne peut pas venir alors que nous l'avions conviée. Donc voilà, nous avons affaire à des gens, je ne donnerai pas de nom, et nous héritons de ce beau projet, en effet. Nous héritons de ce beau projet que nous allons essayer de gérer au mieux, et surtout éviter de mettre en péril les finances de la commune. Pour l'instant, malheureusement, rien de neuf sous le soleil. Y a-t-il d'autres questions ? Monsieur Mengui.
Oui. À l'occasion du dernier conseil municipal, vous nous avez dit tout le bien que vous pensiez du chauffe-eau qui a été installé à la cuisine centrale. Donc, je vous avais demandé des éléments techniques pour juger du bien fondé du surdimensionnement de cette installation. Bon, j'ai regardé là dans le casier, j'ai toujours, à ce jour, je n'ai rien. Ce serait bien de les avoir un petit peu en avance quand même, que je puisse regarder. Mais enfin, ceci étant, ça change pas mon intervention. Je voudrais simplement revenir en deux points sur cette affaire et rappeler un peu quelle était la situation au moment où on a changé ce chauffe-eau. Ce que je voulais vous préciser, que contrairement à ce que vous avez dit et écrit, on n'a pas fait les choses n'importe comment, puisqu'on avait mandaté un cabinet d'études qui a fait une mission un peu de diagnostic thermique sur l'ensemble de la cuisine centrale et également des préconisations pour le remplacement de ce chauffe-eau. Donc le chauffe-eau qui était en place avant qu'il ait été remplacé, c'était un chauffe-eau de 1500 litres à accumulation et qui fonctionnait donc en heure creuse. Et le rapport, enfin les préconisations qui ont été rendues et que vous avez d'ailleurs, je pense que vous avez le dossier, il est resté à la mairie, montrait une forte corrosion de ce ballon et effectivement il était fortement conseillé de le remplacer. Les 1500 litres d'eau chaude ne couvraient pas de façon régulière les besoins en eau chaude au sein de la cantine centrale, au point que les services étaient obligés de le faire fonctionner en heure pleine pour avoir de l'eau chaude de façon satisfaisante. Donc je rappelle que on n'a pas fait les choses comme ça en se levant un matin en se disant tiens on va remplacer le chauffe-eau. On a donc fait appel à ce cabinet d'études, donc je vous rappelle dont vous avez le dossier, et le dimensionnement de 2000 litres était cohérent par rapport aux besoins. Alors j'ai vu que vous aviez fait une démonstration en affirmant qu'avec un ballon de 500 litres, vous pouviez assurer le lavage de la vaisselle pour près de 300 repas par jour, le lavage donc du matériel de cuisine et le lavage des locaux. Moi, il me semble que ça fait quand même pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Les ratios qui sont, je dirais. Oui, la préparation des repas, parce que l'eau chaude servait aussi à faire certaines préparations de repas. Donc les 500 litres dont vous parlez, moi, préconisation d'un chauffe-eau de 500 litres, on va partir là-dessus, moi ça me paraît un peu juste. Ça me paraît un peu juste. Alors je ne sais pas qui vous a fait cette préconisation, parce que quand on regarde, alors je ne tiens pas à vous donner des leçons, hein, simplement je me suis un peu renseigné, il y a des documents techniques qui s'appellent les DTU. Et sur les DTU, vous avez des ratios, qui sont, en gros, à minima, ça va de 5 litres par repas à aller jusqu'à 13, 14 litres selon les installations. Moi, si je fais votre ratio, 500 litres, puisque c'est ce que vous préconisez, divisé par 300 repas en moyenne, hein, on est à 1,66 litres par jour et par repas. Donc ça veut dire qu'avec 1,66 litres, vous faites le lavage de la vaisselle, vous lavez les marmites, vous lavez les locaux et vous faites la cuisine. Voilà, donc je voulais simplement apporter ces précisions, mais vous allez certainement me dire que je me trompe.
Moi, je voulais vous indiquer que justement, ce bureau d'études auquel vous avez fait allusion, c'est lui-même qui nous dit et qui nous écrit qu'au préalable, il n'existait aucun sous-comptage, tant électrique que pour l'eau, entre l'école Mistral mitoyenne et la cuisine centrale étudiée. Donc voilà, il n'y a pas eu d'appréciation des consommations au préalable, d'où le surdimensionnement du chauffe-eau. C'est écrit noir sur blanc là-dessus.
Oui, mais bien sûr, d'ailleurs, les compteurs ont été mis, mais nous, on a hérité d'une situation où à cet endroit-là, il n'y avait pas de sous-compteur, il n'y avait rien. Donc c'était difficile d'apprécier les quantités. Il dit pas que ça d'ailleurs, hein. Si vous avez bien reçu, bien lu le document, il donne donc ses fameux ratios et il donne également quelques points de comparaison avec d'autres cuisines, on va dire identiques. Voilà. Alors moi j'aimerais bien savoir qui vous a donc donné ces chiffres et quelle est la méthode qui vous a permis de déterminer que vous avez besoin que de 500 litres pour faire voilà. Donc moi ça me paraît vraiment très étonnant. D'ailleurs, je me suis rapproché de professionnels, ils s'étonnent également.
En fait, le comptage, c'est le comptage réel qui a été fait et qui nous montre une consommation de 350 litres.
Non, mais c'est vous qui avez fait ça ou est-ce que c'est un spécialiste?
Nos services techniques ont fait estimer la consommation de 350 litres.
Bon, moi, je vous invite à vous rapprocher de ce cabinet d'études, puisqu'apparemment, ils sont donc hors jeu par rapport au dimensionnement. Et dites-leur, voilà l'analyse que nous, on en fait. Ce serait quand même intéressant et ce sera un peu plus fiable que les affirmations que vous avez noté dans le journal. Comme bon.
Écoutez, Monsieur Mingui, nous allons vous passer, comme promis, l'intégralité du dossier. L'intégralité de ce qui a été fait. Les vérifications qui ont été opérées. Oui. Ah, j'ai pas vu, Monsieur Point. Parle dans le micro.
Ça repart à la maternelle.
Oui, mais c'est lavé à la cuisine centrale.
Tout ça, ça repart à la blague. Ah, bon, c'est pas là. Pas la blague.
Alors, bon, y a-t-il d'autres questions?
Oui. Comment ça se fait sur le diagnostic? Il précise bien que les 1500 litres étaient épuisés vers 11h30. Voilà, ça c'est le diagnostic hein, qui a été fait sur site. À 11h30, il y a plus d'eau.
Mais vous l'avez, c'est à votre disposition. Y a-t-il d'autres questions? Alors, il me reste à vous indiquer que le prochain conseil municipal aura lieu le 21 mai, jeudi 21 mai à 19h. 21 mai, 19h. Et il me reste à vous souhaiter une bonne soirée.